J'en viens maintenant à la partie, si vous voulez bien, des alternatives. Hein. Plus précisément, soyons précis. Alors, je vais les aborder peut-être à trois niveaux pour essayer de casser un peu les idées, parce que il y a beaucoup de choses à dire. Je vais aborder le niveau mondial, en me situant d'abord à un niveau mondial, ensuite le niveau plus régional, les régions, et ensuite le niveau local. Je crois que ces découpages, vous verrez, je l'espère, en tout cas, permettra de classer, de clarifier un petit peu la nature des alternatives qu'on peut proposer. Alors, si on se situe au niveau mondial, eh bien, quand on parle d'alternatives, on nous dit, mais vous êtes des rêveurs, vous êtes des utopistes. Eh bien, je répondrai à ceux qui pensent cela, que ce que je vais proposer maintenant, au moins dans un premier temps, ça correspond à quelque chose qui a déjà existé. Certes, il y a quelques décennies, mais qui a existé. Je me référais en particulier aux accords du GATT. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. GATT, c'est le General Agreement on Tariff and Trade. C'est un accord général sur le tarif, sur les tarifs et sur le commerce, qui a été signé en 1947, vous voyez, c'est juste après la guerre, qui était dans le cadre des Nations Unies, de l'Organisation des Nations Unies. À la même époque aussi, il y a eu, je ne sais pas pour ceux qui en ont entendu parler, la Charte de la Havane, qui malheureusement n'a pas été votée par le Congrès américain, donc qui n'a pas été appliquée. Mais qu'est-ce qui caractérisait le GATT et aussi la Charte de la Havane? Donc le GATT a fonctionné jusqu'à la création de l'OMC en 1994. Hein. Eh bien, c'était de dire que, certes, il fallait organiser la liberté des échanges, notamment des biens et des services, mais que cette liberté des échanges devait être subordonnée à un certain nombre de principes, et qu'en particulier, ça c'était très bien dit dans la Charte de la Havane, pour ça que ça n'a pas plu au Congrès américain, devait être subordonnée à un certain nombre de normes sociales. Alors à l'époque, on ne parlait pas d'environnement, mais disons de normes sociales essentiellement, c'est-à-dire que le commerce ne devait pas, par exemple, se traduire par la destruction d'emplois. Il fallait veiller que les accords commerciaux entre les pays se fassent de telle sorte qu'ils soient créateurs d'emplois pour les différents partenaires, et pas uniquement pour un des deux partenaires. Donc ça, c'était, et que donc un des pays qui aurait constaté que dans le cadre d'un accord, il y aurait des destructions d'emplois, était en mesure à l'époque de dénoncer l'accord et de dire, moi je renonce à cette partie de l'accord parce que pour moi, elle a des effets pervers sur l'emploi dans mon pays. Bon. Ce genre de clause qui était donc présente, eh bien, aujourd'hui n'existe plus, évidemment. Hein. Mais ce que nous disons, c'est qu'il faudrait revenir à un système de négociation, et j'emploie le mot en lui donnant toute l'importance qu'il a, multilatéral, c'est-à-dire impliquant tous les pays de la planète, de manière à définir des règles communes, d'accord, qui respecteraient un certain nombre de principes, et dont le principe ultra-prioritaire ne serait pas nécessairement la liberté première des marchandises ou des mouvements de capitaux. C'est-à-dire que cette liberté-là serait subordonnée, dans un certain nombre de cas, bien sûr, à étudier, à mettre en place, hein, à un certain nombre de règles sociales, environnementales. Aujourd'hui, donc, la question environnementale est évidemment absolument prioritaire. Donc, aujourd'hui, juste le dire en passant, il y a un grand danger dans l'organisation du libre-échange, et d'ailleurs, pour le coup, là, l'OMC n'est pas du tout en cause, parce que l'OMC organise plutôt des négociations multilatérales, mais c'est ce qu'on appelle les accords bilatéraux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un grand nombre de pays, à commencer par les États-Unis, qui à la fois, qui jouent un double jeu, mais l'Europe aussi, hein, mais les États-Unis encore plus que nous, qui consistent à la fois à dire on va à l'OMC, mais si on n'a pas satisfaction et si l'OMC nous embête, on va contourner et on va signer un accord bilatéral. À titre d'exemple, les États-Unis ont signé un accord bilatéral avec le Maroc, tout près de nous. Quand vous regardez le contenu de cet accord, allez sur Internet, vous le trouverez facilement, enfin, vous trouverez des articles là-dessus assez facilement. Vous voyez à quel point c'est un accord déséquilibré. Et d'ailleurs, ce n'est pas surprenant, vous avez le plus grand pays de la planète, en tout cas l'un des plus grands pays de la planète, qui signe un accord avec un des plus petits pays de la planète, d'accord ? Et vous voyez le rapport de force. Eh bien, les clauses de cet accord, si vous voulez, sont extrêmement défavorables au Maroc, en fait. Extrêmement défavorables au Maroc. Et c'est ça le danger des accords bilatéraux, c'est qu'ils sont rarement équilibrés parce que c'est rarement entre deux pays de niveau égal, quelquefois, mais pas toujours. En général, c'est plutôt les grandes puissances qui cherchent à signer des accords bilatéraux. Les États-Unis, comme ça, ont signé plusieurs dizaines d'accords bilatéraux avec le Chili, en Amérique latine, beaucoup en Amérique latine, mais aussi en Afrique, je viens de parler du Maroc, et en Asie, etc. C'est un moyen de contourner, si vous voulez, le multilatéralisme. Donc nous disons, il faut du multilatéralisme, il faut donc une organisation mondiale, alors, je ne l'appellerai pas mondialisation, mondiale du commerce, parce qu'il faudrait réformer tellement cette OMC actuelle que porterait plus le même nom. Ou alors une Organisation mondiale du commerce et du développement, si vous préférez. C'est-à-dire fonctionnant avec l'idée qu'il faut du multilatéralisme, qu'il faut absolument organiser les échanges, ça c'est nécessaire, fixer des règles communes, mais avec des principes très différents de ceux qui gouvernent aujourd'hui le libre-échange généralisé. Je dirais pour continuer que, à titre personnel, mais je crois que pour beaucoup d'altermondialistes, on dirait la même chose, même s'il y a des nuances entre nous, je dirais ni libre-échange généralisé, ni protectionnisme généralisé. Et donc j'en viens maintenant justement à la question du protectionnisme. La question du protectionnisme, il y a un certain nombre de personnes, on pense à Olivier Todd, on pense à Jacques Sapir et à d'autres encore, qui sont des gens très bien d'ailleurs, hein, qui écrivent des choses très intéressantes, qui ont mis en avant le protectionnisme comme un sort de modèle général face à la crise, face à la dégradation des conditions de travail et la précarisation, etc. Moi je pense que, d'abord tous les mots ne viennent pas du libéralisme, en tant que tel, il y a bien d'autres causes, hein, c'est pas la seule, même si c'est une cause importante. Et par ailleurs, je ne suis pas sûr que vouloir considérer que le protectionnisme est un remède général est une bonne chose. C'est pour ça que je dis ni libre-échange généralisé, ni protectionnisme généralisé. Il y a des domaines, que je citais tout à l'heure, où les échanges sont nécessaires et souhaitables, dans le domaine, par exemple, de l'énergie, dans le domaine des technologies, etc. Et donc, il apparaîtrait ridicule de vouloir faire du protectionnisme dans les secteurs où les pays ont besoin d'échanger entre eux. En revanche, il est des secteurs où il est des cas très précis où là, je serais un ardent défenseur du protectionnisme. C'est quoi? Eh bien, prenons l'agriculture et l'alimentation, qui est peut-être le meilleur exemple. Ou un des meilleurs exemples. Et c'est ce que nous appelons la souveraineté alimentaire. Concept de souveraineté alimentaire. L'idée, c'est que tous les pays doivent avoir la capacité de protéger leur agriculture et leur alimentation, parce que c'est le fondement de la vie, en quelque sorte, de manière à avoir des conditions d'alimentation, une autonomie, mais aussi une qualité. Hein, les gens, ce que mangent les Indiens, ça paraît ce que mangent les Français, chacun a une conception de ce qu'est du bon riz, des bonnes céréales, etc. Donc, la qualité n'est pas définie nécessairement de la même manière. Les pays doivent avoir la possibilité de définir leur politique alimentaire. Dans les pays du Sud, c'est même une question de survie, parce que nous, nous sommes dans les pays les plus riches en matière d'agriculture de la planète. Bon, mais quand vous allez en Afrique, quand vous allez dans les pays du Sahel, vous voyez tout de suite ce que ça veut dire. Eh bien, et on a vu ce que ça voulait dire, d'ailleurs, avec la crise, avec la hausse brutale des produits d'alimentation, hein, des produits alimentaires en 2008, liés en partie à la spéculation internationale sur les matières premières, d'ailleurs, eh bien, ça a apporté à la famine, ça a amené à la famine des populations entières. Et pourquoi ces populations entières sont amenées à la famine? Et c'est à cause de ce libéralisme, ce libre-échange généralisé. Qu'est-ce qui se passe? Moi, il y a un pays africain que je connais bien, parce que j'y vais souvent, c'est le Sénégal. Qu'est-ce que je constate? Ça fait au moins 15 ans que j'y vais régulièrement. Qu'est-ce que je constate? Ben, je constate qu'il y a eu une dégradation incroyable de l'agriculture vivrière ou de l'agriculture paysanne, ce qu'on appellerait chez nous. C'est-à-dire que tout ce qui est céréales, tout ce qui est protéines, notamment animales, les poulets essentiellement pour le Sénégal, ou tout ce qui est autre type, hein, de production alimentaire, eh bien, c'est considérablement dégradé. Pourquoi? Ben parce que ces pays-là ont été amenés, je dirais même forcés à ouvrir ses frontières dans le cadre des négociations internationales, et qu'aujourd'hui, par exemple, le Sénégal importe du poulet américain ou européen aux hormones, hein, qui est donc d'une qualité nutritive peut-être pas forcément meilleure, hein, et qui a dévasté l'agriculture vivrière dans le domaine de la production artisanale de poulet, parce que c'est beaucoup moins cher d'aller acheter au supermarché, à la boutique du coin, des poulets congelés, plutôt que de le produire soi-même. Et donc, quand il y a eu des hausses de prix, que ce soit le prix du poulet, le prix du riz ou autre, eh bien, et qui étaient des produits importés désormais, puisque l'agriculture locale avait été dévastée par ce libéralisme, par cette ouverture des frontières, eh bien, les paysans ne pouvaient plus payer, ou les citoyens de ces pays ne pouvaient plus manger à leur faim, c'était trop cher pour eux. Et donc, la question de souveraineté alimentaire, pour ces pays-là, c'est aussi et surtout une question de survie, tout simplement. Et donc, qui dit souveraineté alimentaire dit protectionnisme, c'est-à-dire dit mettre des protections pour empêcher l'entrée de produits qui vont ruiner la production paysanne ou vivrière locale, par exemple. D'accord. Donc, le protectionnisme là est parfaitement justifié. Un deuxième exemple de protectionnisme justifié qui est très connu des économistes, c'est ce qu'on appelle les industries naissantes. Donc, il y a un économiste du 19e siècle allemand qui s'appelait Friedrich List, qui a développé cette théorie. Théorie de la protection des industries naissantes. C'est très facile à comprendre. Quand un pays, en voie de développement notamment, développe une nouvelle industrie, décide par exemple de se mettre à produire des, je sais pas moi, des pneus, je vous prends un exemple, je ne suis pas un spécialiste d'économie industrielle, hein, ou décide de produire par exemple de la sidérurgie, etc., des aciers, des ronds à béton, etc. Bon. Au début, il est clair qu'il va être moins productif que les autres, que ses concurrents internationaux. D'accord? Et donc, on peut considérer que pour qu'il puisse développer son industrie, il est logique que dans la phase préliminaire, la phase première de l'industrie dite naissante, ce pays puisse se protéger pour que les petites entreprises et les moyennes entreprises, etc., puissent se développer sur cette activité, devenir suffisamment fortes pour qu'éventuellement un jour, si le pays le souhaite, mais seulement après, ouvre ses frontières progressivement pour se confronter à la concurrence internationale. Là, ça a un sens. Et donc, là aussi, c'est un deuxième exemple de protection. Un autre exemple de protectionnisme qui me paraît souhaitable, c'est dans le domaine de la culture. Parce qu'on parle quelquefois des industries culturelles. Regardez la dévastation en France dans le domaine du cinéma, par exemple. Prendre juste un exemple, celui du cinéma, de la production audiovisuelle, de l'importation de produits venant des États-Unis, notamment. Quand vous voyez ça, et combien ça ruine des tas de petits producteurs, hein, de producteurs dans le domaine de l'audiovisuel. On voit bien que ça, c'est une raison, et ça fait partie de la culture, c'est-à-dire quelque chose qui est très profond dans un peuple, quel qu'il soit, eh bien on voit que là, il y a une raison, il y a une valable de protéger, de faire du protectionnisme par rapport à ces industries-là, parce qu'il y va de la culture. Il y va de la culture, et malheureusement, l'OMC n'a pas accepté d'ailleurs cette objection, ce qui fait qu'aujourd'hui, la culture est considérée comme un bien comme un autre. Hein. Et là, c'est quelque chose qui, évidemment, apparaît tout à fait contestable. Donc, pour rester au niveau mondial, dans lequel je me situe toujours, si vous voulez, donc l'idée, vous voyez, c'est l'organisation des échanges. Alors, j'ai un mot que je n'ai pas employé, qui est très important, c'est la coopération. L'idée, nous disons, et là aussi, c'est très facile à comprendre, et là, peut-être qu'on peut se bagarrer contre les... Puisque les mots ont leur importance. Donc, tout à l'heure, je vous parlais du libre-échange, dans lequel il y a le mot « liberté », donc les gens ont un a priori pour. Donc moi, j'emploierai un autre mot qui est le mot de coopération. L'idée, c'est qu'on ne peut pas construire un monde suffisamment harmonieux, avec des pays de nature très différente, de niveau de développement très différent, etc., sans accepter de mettre en place des principes d'une coopération. Qui dit coopérer, c'est essayer de définir les règles communes, d'accord, mais aussi de négocier, parce que bon, ben, on ne peut pas se leurrer, il faut de la négociation, mais qu'on le fasse d'abord avant de se faire la guerre économique, commerciale, etc. Et donc, la notion de coopération, en quelque sorte, doit devenir un principe dominant, alors qu'aujourd'hui, il y a un déficit total de coopération dans le monde, notamment dans le domaine des échanges, alors qu'aujourd'hui, le principe dominant, c'est la concurrence. Le principe de la concurrence générale, dite libre et non faussée, c'est ça qui gouverne les échanges, qui est au cœur de ce libéralisme-là, de ce libre-échange-là. Et donc, on dit, attention, la coopération est quelque chose d'extrêmement important. Notamment, alors hélas, ça a été complètement galvaudé, notamment en France, puisque quand on parle de la coopération avec les pays en voie de développement, malheureusement, ça a été assez terni, cette affaire, par des pratiques un peu plus que douteuses. Mais disons que, bon, même si ce mot a été quelquefois un peu sali par les pratiques de certains pays, dont le nôtre, on peut dire que la coopération entre pays de niveaux de développement différents est quelque chose de fondamental pour permettre de promouvoir le développement, justement, sur des bases négociables, dans un cadre d'accords multilatéraux, etc., etc. Donc ça, ce concept de coopération doit revenir, doit prendre de l'importance, ça paraît très important. Autre idée, toujours au niveau international, c'est qu'on doit envisager d'autres formes de commerce. Alors là, je pense évidemment au commerce équitable. Certes, le commerce équitable, et on peut le regretter, on peut en être triste d'ailleurs, ne représente que bien moins que 1% du commerce mondial. Donc aujourd'hui, c'est tout petit. Mais le commerce équitable, c'est quand même un modèle qui pourrait prendre de l'importance si les gouvernements l'encourageaient, l'aidaient, hein, favorisaient son essor, qui est un commerce extrêmement intéressant, parce que, surtout quand il est bien pratiqué, parce qu'il y a commerce équitable et commerce équitable, mais quand il est bien pratiqué, c'est quelque chose qui s'appuie sur la notion de filière. C'est-à-dire qu'on part du travailleur, ou du petit paysan, ou du petit artisan qui fabrique un bien ou une denrée agricole, et on va essayer de faire en sorte que, le long de la chaîne, entre cette personne-là et tous les intermédiaires, eh bien, il y a un équilibre qui s'établisse, de manière à ce que le petit producteur, le petit commerçant, etc., ne soit pas grugé, et que ça n'aille pas dans les poches de quelques gros intermédiaires, de grands supermarchés ou de grandes entreprises du commerce, du négoce international, et que ça profite aussi, bien sûr, aux consommateurs, mais que tout le monde en profite. Alors qu'aujourd'hui, on a un système complètement biaisé où, au dos bout de la chaîne, les gens sont grugés. Le petit producteur, d'un côté, enfin, c'est pas toujours des petits producteurs, dedans, le producteur local, africain, latino-américain, etc., et le consommateur aussi est grugé, et ceux qui s'en mettent à la poche, ce sont tous ceux qui sont entre les deux. C'est-à-dire les grandes multinationales du commerce, de retraitement, etc., des industries alimentaires, etc. Donc là, véritablement, il y a quelque chose qui correspond à un principe qui est satisfaisant, qui est le commerce équitable, et qui malheureusement est très peu développé. Ça paraît pourtant être une voie tout à fait importante. Alors,